France Culture.
Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Alain René, selon Sylvette Baudreau, sa script, il salue tout le monde en arrivant sur le plateau, il répète avec les acteurs, il demande l'avis de tout le monde, mais n'en fait qu'à sa tête. C'était en 2008 à Angers pour le festival Premier Plan qui rendait un hommage à Alain René. Autour de Michel Simon, la script d'Alain René donc, son monteur, son compositeur et un historien du cinéma. C'est un peu abstrait, un grand metteur en scène, disait Nicole Garcia, qui avait tourné dans Mon oncle d'Amérique. Quand on se retrouve face à lui, on a peur de le décevoir. Mais il protégeait, il rassurait. Et puis, une fois les scènes tournées, les comédiens partis, commençait pour lui le grand moment, la fin de l'aventure, le montage. Ce débat, en direct d'Angers, fut diffusé pour la première fois sur France Culture le 26 janvier 2008.
Projection privée. Bonjour, nous sommes aujourd'hui au Festival d'Angers qui consacre une rétrospective complète à l'œuvre d'Alain René. Le Festival d'Angers qui est connu pour sa découverte de nouveaux talents. Chaque année, des jeunes cinéastes européens viennent à Angers présenter leurs premiers films. Il y a aussi des films d'étudiants, il y a des courts-métrages. On a créé cette année spécialement une section animation, un festival très vivant, mais aussi qui sait honorer des grands noms du cinéma. Cette année, Jeanne Moreau et Alain René. Alain René n'était pas là. Comme d'habitude, c'est quelqu'un qui fuit les endroits publics, il préfère les sphères privées, d'ailleurs comme c'était le titre un peu au départ de Cœur. C'est une rétrospective complète et c'est, je crois, assez unique puisque cette rétrospective a lieu également au Centre Pompidou, à la Cinémathèque de Toulouse et à l'Institut Lumière de Lyon. Je crois qu'on n'a jamais vu un cinéaste bénéficier d'une telle présentation, ce qui permet dans toutes les régions finalement de voir son œuvre impressionnante. Et pour parler de cette œuvre, j'ai invité des gens qui ont collaboré avec lui, qui ont travaillé avec lui, sont des collaborateurs de création, comme on dit. Sylvette Baudreau, qui est script de Alain René, à quelques exceptions frais, vraiment très peu. Je crois, Mon oncle d'Amérique, justement, puisque Nicole Garcia est également parmi nous. Alors, c'est ce film, vous n'êtes pas rencontré avec Sylvette Baudreau, mais Sylvette Baudreau, qui, depuis Hiroshima, mon amour, a été la script de pratiquement tous les films d'Alain René. Nicole Garcia, qui était son interprète pour un des trois rôles principaux de Mon oncle d'Amérique, un film de 1980, avec le savant Henri Laborie et puis ses partenaires, Roger Pierre et Gérard Depardieu. Hervé Deluz, qui est son monteur, pendant longtemps ça a été Jurgenson qui était son monteur, et puis il est disparu, et depuis Hervé Deluz, les trois derniers films, c'est lui qui les a montés, c'est-à-dire On connaît la chanson, Pas sur la bouche et Cœur, et il sera le monteur du prochain film d'Alain René, Les Herbes Folles, film qu'il va commencer à tourner d'ici quelques semaines, à la fin du mois de février. Et enfin, l'homme qui connaît sûrement le mieux l'œuvre d'Alain René aujourd'hui en France, l'historien et le critique François Thomas, qui a écrit un livre qu'il va falloir mettre à jour, François, L'atelier d'Alain René, qui est un livre d'entretien extraordinairement détaillé et où on retrouve d'ailleurs Sylvette Baudreau pour parler de la collaboration de tous ces gens qui travaillent avec René. René éclairé par Mais il y a aussi un entretien avec Alain René, donc c'était chez Flammarion. Et donc François Thomas, qui régulièrement, dans Positif, publie des dossiers sur Alain René, et qui, j'en suis sûr, pourra nous apporter des compléments d'informations du point de vue critique, en particulier sur la musique de film, puisque nous avons assisté ici, dirigé par Bruno Fontaine, qui a collaboré sur Pas sur la bouche et sur On connaît la chanson, qui a collaboré avec Alain René sur la musique. Il a dirigé l'Orchestre symphonique des Pays de la Loire, où il y avait une anthologie extraordinaire, il faut dire, un grand moment d'émotion, où on a pu entendre toutes ces compositions écrites spécialement pour René, par des gens d'ailleurs aussi différents que Penderecki, Hans Werner Henze, ou bien par exemple Steven Sondheim, l'auteur de Sweeney Todd, le film de Tim Burton qui vient de sortir sur les écrans. Donc on pourrait peut-être commencer peut-être par la personne qui connaît Alain René depuis le plus longtemps, c'est-à-dire Sylvette Baudreau. Comment d'abord peut-être ce métier de script, c'est quelque chose qu'on connaît très mal au fond, et c'est très important. Vous êtes vraiment aux côtés du metteur en scène dès l'origine. Par exemple, dans Hiroshima Mon Amour, vous avez vraiment participé à la préparation du film.
Oui, je vais éclaircir, parce que des tas de spectateurs ce matin m'ont demandé: vous êtes script, donc c'est vous qui écrivez le script. J'ai dit non, absolument pas. Donc il faut bien séparer script. Sans eux, c'est le scénario écrit par le scénariste, et ça c'est un travail que fait le metteur en scène avec son scénariste. Moi, la script, avec un E, avant on nous appelait secrétaire de plateau. Puis on a pris le mot anglais script girl, comme il y a des script boy aux États-Unis. Mais les Anglais nous appellent continuity girl, les Américains script supervisor, les Allemands Bühnensekretärin, et les Italiens, secretaria di edizione, qui veut dire en fait secrétaire du montage. Ce qui prouve nos différentes choses que nous devons faire sur un tournage. Et au point de vue, vous parliez de la préparation, donc le metteur en scène travaille avec son scénariste bien avant qu'on ne me contacte. En général, on contacte la script et on lui envoie le scénario une fois qu'il est écrit, pour qu'elle le minute. C'est notre principal boulot. C'est le pré-minuter, le scénario. C'est très utile pour le metteur en scène, savoir si le film est trop long ou trop court, pour la production, pour savoir ça dure combien de temps, combien de jours de tournage, et l'assistant metteur en scène qui fait son plan de travail, pour savoir par journée, ben, un plan de 3 minutes va prendre toute une journée de travail, alors qu'un plan qui ne dure que 15 secondes, on peut en mettre d'autres dans la même journée, quand il fait son plan de travail, par exemple. Donc il y a tout un travail de préparation, en effet, avec toute l'équipe, mais c'est surtout un travail d'équipe, parce que une script toute seule ne peut rien faire sur un plateau si elle n'a pas l'accessoiriste qui lui pose le genre de questions: est-ce que la soupe doit être fumante à ce moment-là, ou est-ce que il a fini son verre, la costumière, est-ce que il a enlevé sa pochette pendant la scène, et la coiffeuse qui me dit mais est-ce qu'il s'est décoiffé, enfin bref, on a tous besoin les uns des autres.
Hein, et sur Hiroshima, alors comment on joue?
Alors sur Hiroshima, évidemment, c'était un peu spécial par le fait que j'étais la seule française bilingue. Mais si j'ai fait Hiroshima, c'est grâce à l'anglais, hein, parce qu'il fallait emmener un technicien ou une technicienne parlant l'anglais pour pouvoir se débrouiller avec l'équipe japonaise qui baragouinait l'anglais aussi. Au Japon, en effet, j'ai eu plusieurs casquettes. J'étais donc script, je suivais le texte, je notais les costumes, la coiffure. Elle avait quand même, faut pas oublier qu'elle avait 4 perruques, Emmanuel, dans le film. Hein. Elle avait sa coiffure quand elle était à Hiroshima, c'était les cheveux sur le cou, qui tombaient au cou, sur le cou. Ensuite, il y avait la séquence quand on la voyait jeune, à Nevers, à 18 ans, elle avait les cheveux longs dans le dos. Ensuite, quand on l'a rasée, elle avait à peine 1 centimètre de cheveux sur la tête. Et ensuite, un an après, quand ses cheveux ont poussé dans la cave, elle avait les cheveux un peu plus longs, de 4 à 5 centimètres.
Est-ce que votre minutage de Hiroshima, puisque vous parlez du minutage, a correspondu finalement au film terminé?
Dans Hiroshima, j'ai pu minuter, évidemment, les dialogues, mais je ne savais absolument pas combien de temps il allait garder de tous ces plans entre le musée, entre les scènes dans l'hôpital, qui sont, et les scènes de pluie noire, entre autres. Donc, je n'ai pu minuter que le texte et non pas la durée de tous ces documents d'actualité. Je ne savais pas du tout qu'est-ce qu'il allait garder et qu'est-ce qu'on allait tourner.
Alors, je me tourne maintenant vers Hervé Deluce, parce que lui, il est presque à l'autre bout. Enfin, il n'est pas presque. Il est à l'autre bout de la chaîne. C'est-à-dire, vous, vous êtes la script, vous êtes... Évidemment, il y a le scénariste avant vous, mais du moins, vous êtes au moment du tournage la première personne impliquée. Et Hervé Deluce, lui, il hérite. Et alors, il vérifie si le minutage a bien été fait. Alors, René est connu comme un monteur exceptionnel lui-même. Jean-Luc Godard, qui est plutôt avare de compliments. Enfin, à l'époque, il en faisait plus quand il était jeune. Mais il a dit de René que c'était le plus grand monteur depuis Eisenstein. Et donc, qu'est-ce que ça fait de travailler avec quelqu'un dont, un peu comme Kubrick, qui faisait la photo, il avait les chefs opérateurs, mais il connaissait autant la photo. Alors, avec Alain René, comment ça se passe? En quoi consiste le travail du monteur, essentiellement?
Je crois que les antécédents de René l'amènent à faire un découpage extrêmement précis. C'est vrai que le film est quasiment pré-monté. Par exemple, dans On connaît la chanson, il y avait environ 300 plans. Et il y avait dedans, je crois, 45 plans séquences qui était découpé d'une façon magnifique. Enfin, c'est-à-dire qu'on passait du plan serré au plan large. On avait l'impression que chaque plan séquence était un découpage insensé. Et le travail avec Alain, c'est ça à chaque fois. C'est qu'on arrive avec des plans qui s'enchaînent naturellement. Il y a pas des zones d'ombre, mais des moments totalement expérimentaux où il essaye des successions de plans et où là, c'est de l'improvisation un peu. Mais en même temps, chaque fois que on met bout à bout cette expérimentation, on s'aperçoit que ça marche fantastiquement et qu'il a un espèce d'instinct fabuleux du découpage.
Alors, ça a dû être des expériences assez différentes suivant les films, parce que dans « Pas sur la bouche », c'est une opérette. Là, les chansons tombent exactement, donc il y a moins de possibilités d'expérimentation pour vous et pour le cinéaste.
Oui, « Pas sur la bouche », c'est comme une comédie musicale, quoi. C'est-à-dire qu'on est techniquement coincé par la musique et le découpage technique, c'est-à-dire que chaque chanson commence à tel endroit, enfin chaque strophe, chaque refrain, et effectivement, après, on n'a pas tellement de l'attitude d'intervention, quoi. C'est très, très précis et la prise est bonne ou pas bonne, mais on ne peut pas tellement faire d'improvisation, là.
Est-ce que René tourne beaucoup? Ma question implique sans doute qu'il ne tourne pas beaucoup, parce que c'est quelqu'un qui est très très précis dans l'organisation de son scénario, etc., par rapport à d'autres cinéastes qui tournent des dizaines de milliers de mètres de pellicules, parmi lesquels on doit choisir, comme Cassavetes ou Arthur Penn. Enfin, c'est plutôt quelqu'un qui doit être plus rigoureux.
Oui,
quelle est votre marge, alors?
Mais je crois que sur On connaît la chanson, on a jeté un insert, un plan, qui était un insert. Tout est monté chez René, pratiquement. C'est quelque chose d'incroyable. Le découpage est tellement précis que tout est utile. C'est rarissime. C'est quelquefois, il fait deux versions un peu différentes et donc on monte pas les deux versions, forcément. Mais sinon, il y a tous les plans tournés, quasiment, quoi. C'est vraiment un truc super précis.
Et le découpage, il le fait tout seul.
Nicole Garcia.
Oui, je repose la question. Non, le découpage, il le fait
seul. Le découpage, il le fait... Oui, on peut dire qu'il le fait tout seul.
Mais sur le décor,
il fait intervenir sur le décor. Il fait intervenir quand même le chef opérateur et tout ça. Mais enfin, c'est quand même lui qui génère complètement le découpage. C'est-à-dire que Alain est à l'écoute de tout le monde, de tous les techniciens, du chef machinot, du chef électro, du directeur photo. Mais c'est quand même lui qui a l'idée de son découpage et il dit, je veux ça. Par exemple, pour Cœur, il avait décidé que ça serait au téléobjectif, en scope et tout. C'était vraiment une décision. Le film devait se faire comme ça et quoi qu'il arrive. Et son chef op voulait faire beaucoup de plans à l'épaule, il voulait pas, Alain, c'était pas du tout son idée, il fallait le faire, c'est vraiment sa décision, quoi. Il y a un truc, mais bon, ça veut pas dire qu'il n'écoute pas les gens, mais on peut toujours donner son avis, mais il sait très bien où il va, et donc il le prend ou il le prend pas, quoi. C'est pas forcément parce qu'on a un avis opposé qu'on va avoir raison, enfin.
Alors, Nicole Garcia, alors vous êtes entre les deux, vous êtes au milieu de la
gestion,
de la création.
L'actrice.
Vous êtes l'actrice, c'est-à-dire que c'est peut-être ce qui... Curieusement, même si quelqu'un comme René est très en retrait par rapport au monde, puisqu'il était absent du Festival d'Angers, comme de toutes les manifestations en son honneur, il n'aime pas la foule, il n'aime pas l'exposition, c'est quelqu'un très en retrait. En même temps, curieusement, d'après ce que j'ai pu lire, y compris dans le livre de François Thomas, c'est que René il adore le tournage et il adore le contact avec les comédiens. Il a voulu être comédien lui-même. Il était même figurant dans les Visiteurs du soir de Marcel Carné, je crois.
Et oui, cette phrase, il avait dit une fois une phrase sur le tournage, les acteurs, c'est la récompense. Quoi. Voir arriver les acteurs, c'est la...
Voilà. Ouais, donc il aime les comédiens. Et comment alors s'est passée cette première rencontre avec lui quand il vous a offert un des trois rôles principaux, je l'ai dit, de Mon oncle d'Amérique. Je signale d'ailleurs que Mon oncle d'Amérique, c'est un peu le Godot de En attendant Godot, parce qu'on ne voit pas Mon oncle d'Amérique, il est jamais là. Mais comment c'est fait ce rapport? Et comment vous voyez alors René au travail avec les comédiens? Puisque vous-même, vous êtes devenue réalisatrice, alors vous avez pu voir de votre côté comment c'est d'avoir des comédiens en face de soi.
Il y a beaucoup de choses à dire sur Alain, parce que, Alain, d'abord, dans mon parcours, c'est vrai que quand, je l'ai lu d'ailleurs dans les interviews d'autres acteurs, actrices qui ont tourné avec lui, le jour où Alain René vous appelle, il y a une sorte d'éblouissement un peu incrédule. Et après, le voir tourner sur un, dans Mon oncle d'Amérique, le voir, c'est quelqu'un qui, comme disait Hervé, il découpe peut-être beaucoup les choses, il va, beaucoup de choses sont prévues, pensé et réfléchi par lui, et en même temps par rapport à l'actrice que j'étais, il était incroyablement, il est capable de réinventer son univers, parce que une scène particulière dans Mon oncle d'Amérique où j'étais enfermée dans ma chambre par Roger Pierre et je cassais tout avait été prévu, les vases donc avaient été fêlés à moitié, par l'accessoiriste pour que on puisse recommencer les prises, et je lui ai dit en arrivant sur le plateau au moment de la répétition que dans une pareille circonstance, moi j'aurais plus d'inhibition, puisqu'il y a pas mal de questions d'inhibition au milieu des rats de Laborie, mais et que je ne bougerais pas, que je serais peut-être plutôt une souris tétanisée, et que je ne bougerais pas et que j'aurais pas cette explosion de colère contre les objets. Et le matin même, il a changé toute la mise en scène de la scène, et je suis restée sur mon lit tétanisée. Et donc il est capable donc de, il a cette liberté là, quoi. Ça m'avait beaucoup. Moi, c'était extraordinaire de tourner avec René, parce que, et même le temps passant, c'est une expérience, où j'ai acquis beaucoup de confiance et de maturité de manière absolument sans m'en rendre compte au moment où ça se passait, parce que j'étais au contraire dans un grand désarroi et j'avais très peur, quoi. J'étais tellement impressionnée par lui. C'est un peu abstrait, un grand metteur en scène. Quand on vous dit c'est un grand metteur en scène, on le connaît comme tel. J'avais vu beaucoup Providence. Et puis d'un coup, on se retrouve face à lui. Alors, est-ce que c'est la peur de décevoir ou l'enjeu vous paraît tellement grand? Et puis, bon. Donc, j'étais... il a passé beaucoup de temps comme ça, à la fois me protéger, à me rassurer. Et après, justement, je pensais qu'après, dans mon désir de faire la mise en scène, ce désir avait pris sa source dans ce film. Comme ça, je sais pas, quelque chose que j'ai appris de lui dans la proximité silencieuse où j'étais avec lui comme actrice. Et puis, sur un moment aussi où à la fin du tournage, je lui avais dit que je partais, enfin qu'on partait, comme prestation était terminée. Il m'avait dit, ah oui, vous partez, les acteurs s'en vont. Mais moi, le chemin est encore long avant la fin du film, quoi. Comme si on descendait un train et puis le train continue. Et là, j'ai senti une sorte de frustration qui était le premier signe pour moi que peut-être un jour je voudrais excéder ce statut d'interprète. Parce que comme si pour lui, l'important allait commencer pas, l'important pas le plus important, il n'y a pas de hiérarchie à faire, mais quand les acteurs étaient pourtant la récompense, mais étaient partis, quoi. C'est-à-dire le temps du montage, quoi. Quand tout le monde est parti, qu'on est seul avec le monteur et que là, l'accomplissement du film et l'écriture cinématographique, qui est quand même son grand champ, va commencer. Et ça, voilà. Et peut-être, je me suis dit à ce moment-là, c'est ça que j'ai voulu un jour, faire, quoi. Faire le chemin tout entier. Mais pour moi, René, c'est quelqu'un c'est dommage qu'on n'ait pas ici à cette table, il manque un scénariste. Parce que moi, je pourrais poser la question
Ils ne sont pas à Angers,
dommage. Non, mais parce que son rapport à l'écriture, parce que c'est vrai que c'est quelqu'un qui n'écrit pas, n'est-ce pas, c'est bête. Il n'écrit pas, donc c'est quelque chose de... Quand on est sur un plateau avec René, il est très proche des techniciens, il est très proche de tous les gens qui font le film, et un rapport particulier avec les acteurs. Mais je me demande quel est le rapport qu'il a avec le comme si l'objet scénario lui échappe un peu, quoi. Et pourtant, il induit tellement les choses, tellement fortement, et en même temps, lui-même. Il faudrait que je pose la question à Gruau, que je connais bien, pour savoir comment il écrit, d'où viennent les premières idées, et comment il conduit l'écriture. Parce que, autant l'écriture cinématographique est vraiment son domaine, autant Le texte, je me demande comment il...
On va demander à François Thomas. Voilà, il nous représente tous, il représente tous les corps de métier à cette émission. François Thomas.
Bon, disons que je peux parler pour Jean Gruau, qui a vécu trois expériences extrêmement différentes sur Mon Oncle d'Amérique, puis sur La Vie est un roman, puis sur L'Amour à mort. Et selon les quatre figures...
J'interromps une seconde, François, parce que vous le savez mieux que moi. René à la fois a des règles, et en même temps, il aime les casser. C'est Le Mon Oncle d'Amérique qui est le premier film où il s'est servi d'un scénariste professionnel. Jusque-là, il a toujours demandé des scénarios à des écrivains qui n'avaient jamais écrit pour le cinéma. Et non seulement il a demandé à Gruau d'écrire Mon Oncle d'Amérique, mais il lui a demandé deux autres scénarios. C'est-à-dire qu'il a travaillé trois fois avec Gruau, qui était justement ce qu'il avait refusé d'engager auparavant, c'est-à-dire un homme du métier.
Oui, absolument. Donc il avait fait un film avec Duras, un film avec Rob Grier, un long métrage avec Kérol, même si Kérol avait aussi participé à un de ses courts-métrages, bien entendu, Nuit et brouillard. L'idée, pour autant, n'était pas, contrairement à ce qu'on croit souvent, de ne faire qu'un seul film. Il a réessayé, René a réessayé avec Duras, avec Rob Grier, même avec Kérol, avec Samproun, Sylvain Baudreau vient de le dire, il a même fait deux films, c'était à ce moment-là l'exception, Stavisky, qui suivait La guerre est finie. Et puis, tout d'un coup, sur la recommandation de différentes personnes, dont Florence Malraux, qui était son assistante, il a travaillé avec Jean Gruau, scénariste de métier. En même temps, ce à quoi René tient, c'est avoir des scénaristes qui soit sont également dramaturges, soit sont passionnés par le théâtre. Or, c'était le cas de Gruau, qui avait joué la comédie et qui avait également écrit des pièces, même si son œuvre principale, c'est celle de scénariste. Donc, Gruau a vécu trois expériences très, très différentes. Pour Mon Oncle d'Amérique, il y avait peut-être 50% de René, 50% de Gruau. Pour L'Amour à mort, René était extrêmement plus présent dans la commande. Tout d'abord, c'est pas inintéressant de savoir que c'est pas un secret, Gruau le dit lui-même, Gruau n'était pas le premier scénariste contacté pour ce film. René avait un ensemble de partis pris formels, y compris donc l'alternance de scènes dialoguées et, appelons ça, de scènes musicales, déjà. Il avait l'idée qu'il y aurait un personnage de pasteur. Il avait l'idée des situations dramatiques principales. Il a proposé tout cela à Milan Kundera. Il a aussi eu un autre projet avec Kundera, mais c'est une autre histoire. Bon, Kundera ne pouvait pas, donc c'est Gruau qui, si je puis dire, s'y est collé. Donc, Gruau définit ce travail-là comme davantage un travail, disons, d'exécution avec une part quand même importante d'invention. Il a choisi, par exemple, que les deux personnages interprétés par Fanny Ardant et André Dusselier soient l'un et l'autre des pasteurs. Et leurs expériences respectives des rapports avec la religion se sont combinées pour donner ce qu'est le film. Pour Mon Oncle d'Amérique, Gruau, eh bien, devait partir de toutes les théories de Laborie, échafauder une construction dramatique. Mais de toute façon, lorsque René n'apporte pas les éléments au début, eh bien, il va réinjecter des choses. Dans Providence, on sait qu'il y a plusieurs versions du scénario. Entre la première et la deuxième, il n'y a absolument aucun rapport. Quant à La Vie est un roman, Jean Gruau m'a fait l'amitié de me prêter tous ces documents de travail qu'il avait conservés. Et c'est absolument fascinant. Il prenait des notes après chacune de ses rencontres avec René. Et franchement, au bout de 4 mois de notes, il n'y a toujours rien qui se retrouve dans le film terminé. On part à l'aventure. Il y avait un producteur tellement content de l'expérience de Mon Oncle d'Amérique, à la fois l'expérience artistique, et puis c'était un grand succès, le plus grand succès, je crois, de René à ce jour, que le producteur avait envie de refaire ce film. Et au bout de 6 mois, peut-être, ils ont trouvé le thème principal de leur film.
Hervé Deluz, on a beaucoup parlé durant ces rencontres d'Angers de la musique. Il y a eu ce concert que j'ai évoqué. Le montage, c'est tout de même ce qui se rapproche le plus de la musique dans la constitution d'un film. Enfin, le scénario se rapproche plus de la littérature. Le tournage, c'est une expérience qui pourrait se rapprocher du théâtre dans une certaine mesure, puisqu'on a un rapport avec les comédiens. Le montage, c'est tout de même le rythme et c'est le rapport avec la musique. Alors, deux des trois films que vous avez fait avec lui ont un rapport étroit avec la musique, comédie musicale, et on connaît la chanson. Comment se passe ce travail par rapport à la musique, et En quoi René vous, disons, parle avec vous de ces rythmes que donne la musique elle-même, ou dans le cas de chœur, en quoi c'est une expérience qui se rapproche du tempo musical?
Je pense que chœur est très significatif de la façon dont il travaille, parce que les deux autres, c'est vrai qu'il y avait une musique, on connaît la chanson, il y avait plein d'extraits qui étaient déjà choisis préalablement au tournage, et les acteurs avaient répété, enfin tout était très prévu et précis. Pas sur la bouche, c'est une opérette, donc ça avait été enregistré par les acteurs eux-mêmes avant le tournage. Tout ça a été assez installé donc avant au départ du projet. Mais chœur, c'est vraiment sa façon de travailler avec la musique. C'est-à-dire qu'il avait l'idée d'un musicien qui, comme pour Stravinsky, était sur son contrat. Stravinsky, c'est Sondheim, était sur le contrat. Là, Mark Snow était sur le contrat d'Alain. Il ne pouvait pas faire le film sans ce musicien-là. Or, c'était pas du tout un film musical, a priori, puis c'était une pièce de théâtre, une adaptation d'une pièce de théâtre. Et il a cherché dans toutes les musiques faites par ce musicien, par Mark Snow, des morceaux qui lui plaisaient, et il les a fait jouer au tournage pour donner le rythme des mouvements, le rythme des acteurs aussi. Alors évidemment, il n'y a pas toutes les prises avec ça, parce que il y avait du dialogue et que ça on n'aurait pas pu utiliser. Mais les acteurs étaient obligés de se mettre dans la tête le tempo de la musique de Mark Snow, et c'était vraiment quelque chose qui était très important. Même à une période, Mark Snow était malade, il a failli ne pas faire le film, et ça a été le drame absolu. Alain, tout d'un coup, a dit « Je ne sais pas ce que je peux faire, il n'y a plus de film s'il n'y a pas Mark Snow ». C'était vraiment une chose très très importante. Et la musique, je pense, pour lui, est quelque chose qui est intimement lié au projet. C'est pas quelque chose qui se plaque à la fin et qui vient, on dit, on met une musique pour dramatiser telle scène. C'est quelque chose qui existe préalablement, toujours, quel que soit le projet, que le projet soit vraiment musical ou un projet théâtral. Il y a toujours la musique au préalable.
Et parfois, il y a peu de musique dans ces films. Il y a peu de musique.
C'est assez rare. La plupart du temps, il y en a beaucoup, il y en a 40 minutes. Il y en a, dans certains films, dans beaucoup de ces films, il y a 40 minutes, voire une heure de musique. C'est quelque chose de très important.
Oui, il met beaucoup de musique. Et il est très,
très souvent, il fait écouter beaucoup la musique. Pour certains projets, ce qui implique le plus la musique à l'arrivée, il l'a fait écouter aux comédiens d'emblée, par exemple, pour toute la troupe de L'Amour à mort. Et puis, il y a d'autres techniciens qui sont très influencés par la musique, qui le disent tous. Tous les cadreurs et tous les chefs opérateurs de René disent
les chefs machinaux aussi pour les travelling,
oui,
aussi
bien entendu beaucoup, oui. Donc les techniciens et artistes de l'image disent à quel point la musique est importante pour eux. Dans Cœur, il y a un fameux mouvement d'appareil très compliqué au début du film, c'est le deuxième plan je crois, sur un dôme, c'est un mouvement très lent. C'est en écoutant la musique de Mark Snow, d'Eric Gauthier, que ce chef opérateur a trouvé la bonne cadence pour filmer ce plan.
Sylvette Baudreau, vous êtes certainement, je ne crois pas exagérer, la personne qui avait passé le plus de temps avec Alain René de toute son expérience cinématographique. C'est-à-dire que vous avez passé des mois et des mois et des mois avec lui, à travailler avec lui. C'est unique. Je pense que vous êtes la personne qui connaissait le mieux. Alors, je voudrais savoir... puisque c'est un homme qu'on ne voit pas, qui fait pas de conférences de presse, qui n'apparaît jamais à la télévision, qui n'est pas filmé, qui est aussi finalement aussi discret que Kubrick pouvait l'être, comment vous définiriez au travail? Je vous demande pas de me dire autre chose que l'homme qu'il est sur un plateau. Comment vous le voyez? Et a-t-il changé depuis 1959-58 quand
58,
vous avez
58,
oui, 58
ça,
vous
fait
50, avez,
ça, va
oui,
fait
ça fait 50 ans, puisque René, ça fait plus de 60 ans qu'il fait du cinéma, mais depuis 50 ans qu'il fait des longs métrages. Est-ce qu'il y a une évolution? Vous sentez en lui? Ou est-il toujours resté le même? Et qui est-il sur un plateau?
C'est un monsieur qu'il arrive sur le plateau, il salue tout le monde. Tous les machinistes, les électriciens, toute l'équipe, bonjour, bonjour. Il est très poli, très discret, très courtois. Il répète avec les acteurs. On peut donner son avis. Il dit oui. Non, il discute aussi bien avec le chef opérateur qu'avec le cadreur. Il discute, etc. Et alors, on a tous l'impression qu'il nous écoute et que ce qu'on lui dit, il l'enregistre. Mais en définitive, il n'en fait qu'à sa tête. Il n'est pas breton pour rien.
C'est vrai, mais il demande l'avis de tout le monde.
Quand il demande l'avis de tout le monde.
Du chef machinot, est-ce que le travelling était bien? Il demande l'avis de tout le monde. C'est lui qui demande.
Absolument. Du reste, je note sur les différences entre chaque prise. Ça, c'est bon pour le machiniste. Ça, c'est bon pour la lumière. Ça, c'est bon pour le point, etc.
Et nous, mais... il nous demandait s'il fait tout le temps ça. De... Il veut savoir quelle est la prise dans laquelle l'acteur se sentit le mieux. Oui. Et qu'on le marque. Qui n'a rien à voir après avec la prise qu'il retient, j'imagine. Oui. Je suis sûre même. Mais enfin, il aime savoir la prise dans laquelle...
Oui, en même temps, il ne veut pas que les acteurs regardent le combo, regardent les rushs. Ça lui déplaît souverainement. Il leur demande leur avis après la prise, mais sans qu'ils regardent leur image.
Il me dit, vous notez, ça s'appelait à l'acteur ou ça s'appelait à l'actrice.
Pour répondre à Nicole Garcia, René est quand même quelqu'un qui choisit la meilleure prise pour le comédien et non pas la meilleure prise pour la technique. À ma connaissance, Hervé peut le confirmer, j'imagine.
Oui, mais pour le sens, vraiment, pour l'émotion, parce qu'il y avait des choses, je me souviens, dans On connaît la chanson, il y avait des prises qui étaient plus comiques et d'autres plus dramatiques, et il voulait vraiment tirer le film vers quelque chose d'un peu noir, et c'était vraiment une histoire d'émotion.
De tonalité, oui.
Et
oui.
Sylvette Baudreau, Nicole Garcia disait tout à l'heure qu'il laissait une marge, et il y avait une possibilité d'improvisation, de choses... Est-ce que vous avez des exemples, est-ce que vous avez des souvenirs de choses que René pourrait changer à la dernière minute?
Non... Bon, je me souviens, c'était dans Stavisky, Charles Boyer, 10 ans d'hommage. Il lui a fait dire de 10 façons différentes. Dommage. Oh. Il y a eu 10 façons différentes de dire dommage.
Nicole Garcia. Dans ce film, Mon oncle d'Amérique, enfin, René adore expérimenter avec toutes sortes de choses, de faire des mélanges. Bon, il y a le discours de Laborie, et puis il y a vos trois personnages où vous vous identifiez à des acteurs ou à des actrices. Roger Pierre s'identifie à Daniel Darieux, il y a un changement de sexe. Vous vous identifiez à Jean Marais, il y a un changement de sexe. Depardieu s'identifie à Gabin, là c'est presque une filiation naturelle dans le cinéma français. Est-ce que vous connaissiez ces extraits ou est-ce que vous les avez découverts au montage? Est-ce que vous avez montré, ces films?
Thomas, est-ce que c'était moi-même pour pallier ma mémoire défaillante? Est-ce que c'était dans le scénario ou est-ce que c'était quelque chose qu'il a prévu de faire mais qui n'était pas inscrit? Est-ce que les acteurs auraient pu ne pas le savoir ou est-ce qu'ils nous... Non, je pense que je le savais quand même. Qu'il y avait cette...
Vous étiez Jean Marais.
Que j'étais Jean Marais, oui, je le savais. Si, je le savais. Oui. Je me souviens maintenant que je le savais. Mais que c'était surprenant et que j'aimais bien, en plus, moi, ce double qui était Marais. Et puis surtout la manière dont le film s'en sert génialement, quoi. Que, c'est vrai que je parlais de cette peur des émotions chez Alain, mais quelque chose qui, au moment où le personnage vit sa scène la plus intense, il vient, grâce au montage, mettre en parallèle Marais qui tombait en arrière, enfin, et qui créait que même, voilà, comme toujours pour que dans l'émotion, il y a chercher qu'est-ce qu'il y a derrière les émotions, quoi. Chercher donc à les styliser, à les rendre plus universelles, à les sortir du pathos du personnage lui-même, et c'est ça qui est très beau dans. C'est les acteurs, c'est une porte étroite pour les acteurs d'Amérique, parce qu'on est cerné par les images mythologiques des acteurs. D'autrefois, enfin, par les mythes qui nous accrochent à droite et par les souris à gauche. Donc, il y a un couloir comme
ça. Les souris,
c'est
des expérimentations de Laborie, du biologiste.
Voilà. Qui montraient à quel point on était surdéterminé selon les agressions, l'acidité du monde extérieur et que, voilà, et qui était, et à l'époque, je me souviens, quand on a présenté le film à Cannes, c'est vrai que vous vous rappeliez que le film avait été récompensé, mais quand même, les critiques avaient été assez sévères, et beaucoup de gens parlaient d'un aspect très didactique, et scientifique, un peu, de vulgarisation, un peu facile. Alors que maintenant, quand on regarde le film, c'est vrai qu'on le regarde comme quelque chose où Laborie est toujours là, avec ses rats, mais il y a quelque chose de ludique, mais quelque chose, oui, qui vient dire quelque chose de la nature humaine et de nos comportements de manière, imaginative et plus légère et pas du tout didactique.
Et en fait, de lui, cette expérimentation de Mon oncle d'Amérique me fait penser à celle de... On connaît la chanson, c'est-à-dire que Nicole Garcia, qui pense à elle, et quand elle voit Jean Marais, enfin, c'est Jean Marais qui la représente dans ses films en noir et blanc, c'est un peu comme dans On connaît la chanson, où, par exemple, le personnage qui joue le commandant en chef militaire de la ville de Paris est doublé par Joséphine Baker. C'est-à-dire que là aussi, il y a un transfert de sexe.
Oui, mais ça, c'était... Enfin... L'idée générale dont connaît la chanson, c'était les rengaines qui vous prennent la tête dès le matin et qui vous poursuivent toute la journée. Et je pense que ça, c'était quelque chose d'universel pour lui. Il n'y avait plus de problème de sexe. Je pense que ça pouvait être masculin, féminin. Et même dans toute la séquence où il chante la chanson de Sylvie Vartan, il y a homme, femme, tout le monde chante enfin la même chanson. Parce que c'est juste l'universalité de la chose, quoi. C'est un principe, quoi, presque.
L'idée, c'est aussi de dérouter à chaque fois. Il y a une quarantaine d'extraits de chansons. Il s'agit qu'à chaque fois, le spectateur, tout en sachant qu'il va y avoir un nouvel extrait, le découvre d'une façon différente. Donc, dans la chanson qu'évoquait Hervé Deluze à l'instant, il y a un moment que j'aime beaucoup. On voit Sabine Azéma prendre son élan pour chanter. Et puis, il y a une coupe et c'est Jean-Paul Roussillon, le père, qui chante à sa place. Il y a aussi le moment
c'est
où...
C'est quelle chanson, déjà?
Je serai la plus belle pour aller danser.
Oui.
Et il y a un très beau moment aussi qui chante quand on perd la tête. Enfin, c'est une voix d'homme. Enfin, il y a plein de. Il l'a fait plein de fois.
Et
plein de
transferts. Il y a un moment où Jean-Pierre Bacri et André Dussolier chantent une chanson de Jane Birkin, quoi. Et puis 20 minutes plus tard, c'est Jane Birkin elle-même qui la chante.
Qui la chante. Ah,
François Thomas, on a beaucoup parlé à Angers, c'était un des leitmotifs, si j'ose dire, la musique chez René. Le rôle que joue la musique, le fait qu'il ait fait appel, encore une fois, à des compositeurs qui n'étaient pas du tout spécialistes de musique de film, comme à des scénaristes qui n'étaient pas des scénaristes professionnels. Comment vous voyez, il a une oreille très musicale, il s'intéresse beaucoup à la musique, et quel est le rôle de la musique vraiment dans ses films ?
Il s'agit tout simplement de structurer le film à l'arrivée. Simplement, cette structure, elle est déjà conçue au départ. Il sait très bien, comme ça a été dit tout à l'heure par Hervé Deluze, la plupart du temps, il sait très bien qui va écrire la musique. Donc, il y a même des moments très intéressants où, d'emblée, René met les comédiens, met le scénariste, met l'équipe dans la tonalité du compositeur. C'est le cas pour Cœur avec... Mark Snow, Hervé Deluze l'a rappelé, c'est le cas pour Stravinsky avec Sondheim, c'est le cas pour L'amour à mort avec le compositeur allemand Hans-Werner Henze, et puis à l'arrivée, le compositeur se retrouve dans un film qui est complètement à son image, qui est véritablement créé par lui, il se retrouve dans sa propre ambiance.
Et je dirais, il sait qui va être le compositeur et où il va y avoir de la musique dans le film déjà, il le sait au départ, et c'est très curieux, enfin très surprenant, parce qu'il est, c'est déjà... prévu dans sa tête, quoi, complètement. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il n'y a pas une fonction vraiment dramatique de la musique au dernier moment pour magnifier un moment. C'est prévu comme ça et on sent que ça coule tout seul, quoi. C'est la musique de Mark Snow dans Cœur, c'était incroyable, quoi, parce que on n'a pas du tout utilisé la musique qui a été celle qu'on a prise à la fin, mais quand il a refait la musique, Mark Snow, on a l'impression qu'elle avait toujours été là, sa musique. Le film avait été écrit sur cette musique, alors qu'elle a été écrite à la fin.
Il y avait deux morceaux, une musique angélique, une musique démoniaque.
Oui. Alors, il y a une rencontre, puisque cette semaine sort le film de Tim Burton, qui est sorti mercredi dernier, Sweeney Todd, réalisé d'après, j'ose pas dire la comédie musicale, plutôt la tragédie musicale de Stephen Sondheim. René est le premier à s'être adressé, et le dernier d'ailleurs, à Stephen Sondheim, pour écrire une partition pour Stravinsky. Son goût pour Sondheim est très marqué.
Absolument. Ça dérive aussi de tout son goût pour la comédie musicale de manière plus générale. Il se flatte d'avoir vu tous les films de Fred Astaire sans exception. Il aime beaucoup aussi Kurzweil. Il a eu un projet d'après une œuvre allemande de Kurzweil de la fin des années 1920, un projet assez récent.
Le Tsar s'est fait photographier.
Voilà. Et Sondheim est tout à fait dans cette lignée, c'est-à-dire quelqu'un qui joue vraiment sur l'alternance du sucré et du salé, de l'aigreur et de la douceur, un côté parfois très violent sous l'apparence de calme, de mélancolie. C'est du reste une tonalité qu'on retrouve très souvent, qu'on retrouve dans la musique merveilleuse aussi de Philippe Gérard pour La vie est un roman. Il y a beaucoup de traits musicaux que l'on retrouve. Une valse vénéneuse dans La vie est un roman, une valse crépusculaire dans Providence, musique de Miklós Sosa. Pour revenir à Sondheim, donc c'est l'un des compositeurs préférés, très certainement, d'Alain René, mais c'est aussi un compositeur qui lui-même était influencé par René. Donc lorsque René a découvert sur scène une des toutes premières comédies musicales de Sondheim en 70 qui s'appelle Follies, il ignorait complètement que cette comédie musicale dans laquelle il se retrouvait parfaitement, qui pour lui est le plus grand moment de spectacle qu'il ait jamais vu, notamment un moment d'effondrement total d'un personnage qui oublie ses paroles. On croit d'abord que c'est le comédien, en fait c'est le personnage. René donc ignorait que cette comédie musicale était inspirée par, ou plutôt influencée par, par ses films, notamment par Muriel, une manipulation du temps, un mélange aussi du réel et de l'imaginaire qui venait en droite ligne de ses films. Sondheim appelait Follies, ma comédie musicale, à la Alain René. Et la parenté maintenant entre le Sweeney Todd de Tim Burton et l'univers de René, c'est tout simplement, Burton a pris le même principe que René dans Pas sur la bouche, c'est-à-dire non pas s'adresser à des vedettes de Broadway, mais à Johnny Depp, à Helena Bonham Carter, à Alan Rickman, et leur demander de chanter, tout comme Pierre Arditi, André Dusselier, Sabine Azéma, Isabelle Nanty, chantaient dans Pas sur la bouche, j'ai oublié Audrey Tautou, Jalil Lespère. Il n'y avait que Lambert Wilson qui avait une formation de chanteur, Lambert Wilson qui avait d'ailleurs, que j'ai vu, incarner un personnage dans une comédie musicale de Sondheim à Londres.
Nicole Garcia,
je me souviens qu'il disait qu'il adorait la, je vous interromps, non, qu'il adorait la radio, qu'il adorait la radio, qu'il adorait les chaînes musicales, et il se plaignait qu'il y avait trop de paroles sur les chaînes musicales. Est-ce qu'il nous écoute maintenant? Il y a trop de paroles.
Alors, Nicole Garcia, quand vous tourniez avec René, était-il directif? Parce que il avait été comédien, bon, en tout cas, il adore les comédiens. Est-ce que sa façon de travailler, c'est de mimer ou au contraire, il vous laisse une grande liberté? Comment ça se passe exactement? Est-ce qu'il fait beaucoup de répétitions avant de commencer le tournage? Est-ce que vous avez des périodes de travail avec lui? Et sur le plateau même?
Moi, je peux parler que de Bon Nom d'Amérique. Il était très, il y avait peu de répétitions. On a aussi, il y avait ce moment formidable avec où on lisait avec lui en tête à tête le rôle en entier et lui faisant tous les rôles pour la première fois. Après, quand on connaît après des metteurs en scène plus directifs, lui, il semblait qu'il ne l'était absolument pas, comme je disais tout à l'heure, il semblait, mais il vous met dans une telle situation, comme je disais, tout est tellement préparé, que, effectivement, on est très, il y a une direction très grande, mais qui ne passe pas par, une direction, ni sur l'humeur, ou, je pense qu'il y a un grand respect des acteurs, donc c'est très bien que les acteurs lisent aussi bien un scénario que d'autres, et que, sur les sentiments à jouer et tout ça, ils sont au cœur de ça. Donc je le trouvais au contraire très très peu directif. Et c'est après qu'on se rend compte à quel point on était quand même très très guidé quoi par le décor et par les places qu'il vous donne. Donc c'était très balisé au fond. On se croit libre, mais c'était très 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 balisé. Mais c'est pour ça d'ailleurs que les acteurs sont souvent si exceptionnels avec lui, parce que tout est tellement juste, tellement intelligent. Non, c'est moi ce qu'il dit souvent, parce qu'on a tourné Mon Amérique très très en désordre à cause des décors comme toujours, mais de la météo qui faisait qu'on changeait beaucoup sur la côte bretonne lors du tournage. Il venait quand on se trompait, il venait vous dire non. Là, la dernière fois qu'on vous a vu, vous faisiez donc. Il donnait une sorte de script sentimental du personnage, du script des états affectifs, mais voilà, pas plus quoi. Après, il laissait l'acteur libre. Enfin, en tout cas, moi, c'est le cas. Il me laissait libre d'interpréter à ma manière. Mais voilà, mais quand même, c'était merveilleux. D'ailleurs, cette liberté est merveilleuse, qu'on sent à quel point on est sous protection, sous grande protection de de son talent, quoi.
Sylvette Baudreau, l'ambiance sur les tournages, est-ce que ça varie? Est-ce que c'est toujours de bonne humeur? Ou est-ce que quand c'est des films plus dramatiques, on est plus sévère? Ou au contraire, c'est les films dramatiques qui suscitent peut-être la plus grande euphorie sur le plateau? Comment ça se passe? Quelle ambiance règne sur le plateau d'Alain René?
Oh, c'est très...
On plaisante?
Très calme, plaisant.
On plaisante aussi?
En 50 ans, je l'ai vu peut-être une ou deux fois... tout d'un coup, je ne sais pas ce qu'on lui avait dit exactement, parce que je ne suis pas tout le temps derrière lui, mais tout d'un coup, il est devenu très blanc et il est sorti du plateau. Mais je ne l'ai jamais vu gueuler sur un pas de plateau. Jamais, jamais, jamais. Il a toujours été très calme. Et les deux, trois fois où je l'ai vu un peu contrarié, mais c'est tout juste, je vous dis, il devient blanc et il sort du plateau.
Hervé Deluze, est-ce que le monteur vient sur le plateau?
très peu je suis venu quelquefois, mais par plaisir plus que par nécessité. Enfin, c'est pas, il y a beaucoup de metteurs en scène qui demandent, avec qui j'ai, même avec Polanski, j'ai l'habitude d'aller sur le plateau souvent pour certaines scènes d'action ou pour des histoires de transition entre les scènes. Mais avec Alain, non, c'est vraiment purement du plaisir, quoi. J'y vais 2-3 fois pendant le tournage juste par plaisir.
Et pourtant, alors, parce qu'il dit qu'il prépare beaucoup, mais il dit pourtant, paraît-il, au producteur, il dit, laissez-moi du temps, comme si je prenais sur l'argent, donc sur les décors, surtout, mais laissez-moi du temps. Surtout, mais sur le montage, surtout sur le tournage, sur des longs tournages, sur le temps des tournages.
C'est un homme qui aime énormément les accidents et il est prêt à tout pour voir ça, je crois, les accidents de la vie, l'irruption de la vie comme ça. Donc c'est un moment où il peut se passer plein de choses et dont il est assez friand et il attend de voir ce qui se passe et puis voilà, c'est quelque chose. Et comme le projet est tellement préparé, il est sûr que ça va s'inscrire dans son projet, mais d'une façon inattendue, je crois. Mais pour ça, faut pas être pressé par le temps. Enfin, moi, je vois ça comme ça, je sais pas.
Oui, ben c'est Sylvette Baudreau qui pourrait donner la réponse, mais je vais la donner à sa place. René, pendant très longtemps, avait une cadence de tournage particulière et quasiment immuable. Il tournait tous ses films à la même vitesse. Ses films, pendant très longtemps, étaient extrêmement découpés. Donc, fatalement, ça demandait du temps. Muriel, il y a un nombre de plans insensés. C'est, paradoxalement, un de ses films qui ont coûté le plus cher. Ça ne se voit pas à l'écran. C'est juste une question de découpage. Maintenant, comme il tourne beaucoup plus en plan séquence, il y a des films qui sont tournés beaucoup plus rapidement. Mélo a été tourné en 3 semaines.
Merci beaucoup. Sylvette Baudreau, Nicole Garcia, Hervé Deluz, François Thomas. Je rappelle donc, le Festival de Angers est en train de se terminer, mais on peut continuer à voir toute l'œuvre de René au Centre Pompidou jusqu'au mois de début mars, également à la Cinémathèque de Toulouse, également à l'Institut Lumière. On peut également lire un livre tout à fait passionnant qui est un scénario inédit écrit pour René par Frédéric de Tovarniki, Les aventures d'Harry Dickson chez Capricci. Tovarniki nous a quittés il y a une dizaine de jours, disparu malheureusement, il devait être à Angers aussi, mais il est mort. On a lu ce scénario, les frères Podalides ont lu ce scénario. Et puis aussi, pour ceux qui intéressent la musique de film et les partitions pour René, il y a ce portrait musical Alain René qui est paru chez François Thomas.
Chez Universal.
C'est pas marqué sur la couverture.
Sous la direction.
Donc chez Universal, Alain René, portrait musical avec des extraits des musiques de films. Donc c'était donc du Festival d'Angers, l'émission Projection privée de Michel Simon. Équipe de réalisation Olivier Berotte, Bernard Quentin et Laurent Polleré.
C'était Projection privée, une émission de Michel Simon, diffusée pour la première fois sur France Culture le 26 janvier 2008.